maintenant vaut des millions. Qu'aucun se vend mieux que du cochon. Rien n'a changé, on tourne en rond. Et dure, dure ma chanson. Le temps que je me marre.
C'était Léo Ferré, bien sûr, les temps sont difficiles, le grand, grand Léo Ferré, comme nous l'aimons dans cette émission. Cette émission donc reprend ses modes d'emploi sur Fréquence Paraporiel. Exceptionnellement, nous faisons une demi-heure supplémentaire puisque nous fêtons les 20 ans des marches des chômeurs et également de notre émission, mode d'emploi, bien sûr. Voilà, elle reprend donc avec Ludo, Christophe au micro. Bonjour à tous les deux.
Bonsoir.
Ah, moi-même, bonsoir. Gilles, et puis Claude à la technique, voilà, qui, comme chaque vendredi, enfin, vient nous mettre sur les ondes. Voilà. Donc, on reprend cette émission pour un petit peu. Bon, c'est un peu séquence émotion, hein, cette émission, parce que c'est un peu des souvenirs qui reviennent un petit peu 20 ans plus tôt. Hein, voilà.
Émotion.
Émotion. Donc, on a chacun vécu notre émission radio de façon différente, bien sûr, et puis également les mouvements qui ont eu lieu depuis 94. Hein, certains étaient déjà. En culotte courte, mais déjà dans les manifs, hein, on va dire ça comme ça. On a chacun nos heures de gloire, et puis évidemment nos difficultés à trouver du travail ou même à en chercher, parfois. Donc c'est important de fêter ces 20 ans, et surtout c'est important d'aller aux manifs dont je vous rappellerai tout à l'heure les dates. Voilà. Alors Ludo, toi, tu avais quand même quelque chose à nous raconter.
Non, et en fait, il y a quand même une chose auquel c'est vrai qu'on parle pas beaucoup dans cette émission, et on s'en excuse auprès des gens, c'est les marches européennes. C'est-à-dire que on a quand même tous compris que les centres de décision se déplaçaient progressivement vers Bruxelles, effectivement, mais aussi au siège de la BCE qui est à Francfort. Et donc les manifestations européennes deviennent une obligation. Et c'est beaucoup plus compliqué à organiser parce qu'effectivement, il faut trouver de bonnes raisons pour manifester au même moment dans tous les pays européens. Donc bon, bah, contre l'OMC, on a un peu de quoi faire, mais la conscience politique européenne, c'est pas encore ça, quoi. Y compris la conscience syndicale, d'ailleurs.
Tout à fait.
Je tiens à le dire, puisque voilà.
Par contre, la conscience fiscale dans certains pays se porte très bien.
Tout à fait, mais justement, ça fait partie des nationalismes bêta. En tout cas, donc du coup, voilà. Donc il y a aussi des marches européennes donc contre le chômage, puisqu'il y a aussi des mouvements. Contre le chômage, et par exemple, hein, l'Allemagne est un pays merveilleux où tout se passe bien, et ben il existe aussi des mouvements contre le chômage en Allemagne, puisque pendant des années l'Allemagne a quand même été frappée durement par le fait. Aujourd'hui, elle est peut-être moins frappée par le chômage, mais enfin elle est beaucoup plus frappée par la précarité. Et donc voilà, donc il y a régulièrement quand même, il y a un site d'ailleurs de marche européenne où vous pouvez consulter. Voilà, si ça vous intéresse, si vous avez envie d'y aller, pour dans des cas ponctuels aller manifester à Bruxelles. Finalement, c'est pas très très loin, Bruxelles, hein. Et ça vaut la peine de faire savoir que il y a comme un petit problème quand même en Europe en ce moment, n'est-ce pas? Voilà. Et donc autre chose dont j'aurais aimé parler, c'était une des victoires d'AC, qui était quand même de l'abrogation. C'était en 2007, l'abrogation d'un décret de 2005 sur le contrôle fiscal et social des demandeurs d'emploi. Donc le décret prévoyait que les inspecteurs et les contrôleurs du travail puissent faire communiquer par les administrations fiscales tous les documents nécessaires en cas de présomption de fraude de la part d'un chômeur.
Ah, ça y était. Alors, déjà là.
Le conseil, voilà, et donc c'était. Alors effectivement là, on a un doute, hein, parce que la fraude en général. On suppose que les trois quarts de la fraude, c'est quand même du travail au noir, et donc c'est du travail ponctuel. Par contre, effectivement, supposer que quelqu'un touche des allocations chômage puis travaille en même temps, aujourd'hui avec le croisement des fichiers, ça devient quand même très compliqué à mon avis.
Exactement.
Même si le décret a été abrogé, c'est un truc qui devient bon. On en parlera sûrement dans une autre émission. Et par contre, c'est une défaite d'AC, c'est qu'on n'a pas, on s'est pas mobilisé là-dessus, c'est-à-dire l'abrogation en fait du décret du train de vie contre les RMistes enfin les RSAstes plutôt, anciens RMistes, qui là permet effectivement aux agents de la CAF d'aller contrôler le train de vie des chômeurs en recoupant d'abord les fichiers, puis ensuite en se rendant directement sur place, puisqu'il y a évidemment des faux RMistes hein, et que, qui profitent outrageusement des 400 euros qui leur sont versés par mois. Voilà, donc ça c'est une défaite. Après ça c'est un truc qu'on s'est pas vraiment mobilisé, donc voilà, on le regrette là-dessus. Voilà. Et en fait il y a un troisième mouvement qui est né en Allemagne, mais dont on a un peu parlé en France, c'est simplement ceux qui rejettent purement et simplement le travail. Donc chômeur heureux, hein, il s'intitule. Et c'est des tracts d'inspiration situationniste pour appeler à la désertion du système capitaliste. Donc c'est aussi un acte, je le mentionne parce que c'est aussi un acte de résistance. De considérer une bonne fois pour toutes que de toute façon ils n'auront pas assez de cotisations retraite s'ils restaient à travailler et que de toute façon ils ne seraient pas une main d'œuvre employable et corvéable à merci et qui donc ne feraient pas le jeu des employeurs. Bon, c'est pas forcément une analyse qu'on partage tous, mais c'est un acte de résistance qui en soi se respecte.
Merci Ludo. Alors moi je me souviens quand même, toi t'as vécu quand même, Christophe, des moments importants aussi. T'as vécu des moments importants dans les manifs aussi à Caen, même à Paris. J'imagine que t'as aussi. Je me souviens t'avoir rencontré une fois dans une manif à Paris. Moi j'étais avec mon petit micro pour FPP. Et on a effectivement, tu te rappelles, c'était, je me souviens plus en quelle année, enfin, il y a quelques années déjà, c'était un peu en fumée, et c'est vrai, ça est chargé, tu te souviens un petit peu de ouais, cette période.
Ouais.
Et je trouve quand même, c'est inique quand même que des gens qui manifestent pacifiquement, mais ça, tout le monde le sait, donc je ne fais que le répéter, mais quand même des gens qui luttent pour leur bien social, pour être dignes, pour pouvoir se laver, s'habiller, manger à leur faim, faire manger leurs enfants à leur faim, manifestent pacifiquement et sont chargés par les CRS. Moi, je trouve ça, mais dans quel monde vivons-nous,
quoi? C'est parce que t'as pas été à Gênes, à l'époque de Berlusconi. C'est pour ça que t'aurais compris ce que c'était que des interventions policières dans les locaux des permanences, des associations qui étaient là-bas pour suivre l'actualité, enfin tous les abus complètement inimaginables, indignes d'un régime fasciste, et j'emploie le mot
à bon escient,
effectivement c'était Berlusconi qui avait pour qu'il n'y ait pas de voilà, hein, soi-disant que tout sa ville de Gênes soit clean, propre, et qui avait employé les manières les plus musclées, qui a rappelé l'Italie mussolinienne, et d'ailleurs qui a bien fait scandale, pas tant que ça en Italie, puisqu'il a été réélu depuis, mais enfin... qui marque une date hein, dans la possible répression des mouvements, de répression de masse des manifestations. Là où il se passe.
Fait. Bah écoutez, on va écouter quand même là Eric qui parle donc de la marche qui vient du Nord, toujours en 1994. On l'écoute et ensuite on reprend la parole.
Je suis présidente de l'association pour le Parlement de Montmartre, où les marcheurs seront demain. Le plus grand, justement, j'habite Paris.
Va répondre.
Et je crois que ça fait un petit peu savoir ce qui allait se passer pour eux. Alors on annonce ça sur le programme, c'est pour le jour soir. Ils seront en événement demain, midi, je pense. Et nous marcherons jusqu'à Montmartre, il y a peut-être 15 km. Arrivé là, il y aura encore une petite réception, il y aura le maire, il y aura tout ça. Et ils devraient avoir pris la paix pour quelques jours. Il y aura des agriculteurs, mais ils seront tranquilles, c'est ce que c'était, je crois. Donc, il y aura tout là-dessus. On aura un repas aussi où on va tous ensemble, on va manger ensemble. Donc nous décidons avec nous, évidemment. Voilà, c'est ce qui était demandé. Bon, on l'a bien vu. Il y aura deux choses par contre qui sont presque obligatoires. Bon, les bons, on les apprendra, les bons, on les mangera. Il a fallu les prévoir, il a fallu organiser tout ça, ça va être simple. Et ça, on va bien changer. Voilà.
C'est pas une bonne idée. Bon, ma question, pourquoi? Parce que c'est pour tout le monde. C'est la solidarité.
Eric, toi, tu as donc accueilli les marcheurs avec une coordination de plusieurs villes de Seine-Saint-Denis. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste justement cette coordination? Pratiquement, ça voulait dire quoi faire la coordination?
Bien, ça voulait dire les accueillir dans les meilleures conditions. Nous étions une coordination de plusieurs communes, donc Aubervilliers, Pantin, Romainville, Pré-Saint-Gervais, Les Lilas. Et depuis le début, ce collectif était constitué pour accueillir la marche à Pantin, le dernier jour, donc le vendredi 27, avant la manifestation du 28. C'était la marche Est qui devait passer à Pantin, mais dans les derniers jours, il y a eu un changement. C'est la marche Nord qui finalement devait être accueillie à Pantin. Elle devait passer à Saint-Denis, Aubervilliers, puis Pantin. Donc, moi qui étais sur Aubervilliers, il a fallu qu'on prenne des contacts très rapidement pour pouvoir organiser le passage à Aubervilliers. Il a fallu aussi que Pantin revoie un peu ce qu'il avait prévu, puisque c'était plus toute la journée, ce n'était plus lui uniquement qui prévoyait toute la journée. Donc il a fallu qu'on dialogue avec Saint-Denis, entre nous, Pantin, Aubervilliers et les autres communes qui travaillaient avec nous, quoi.
Mais quand tu dis, il a fallu organiser, il a fallu prendre des contacts, ça signifie au niveau des repas, au niveau des logements, au niveau de... parce que les marcheurs arrivaient du Nord, je suppose qu'ils arrivaient souvent dans un état de fatigue assez important. L'organisation en pratique, les contacts, ça s'est passé comment ? C'est-à-dire qu'ils logeaient chez l'habitant, c'était un réseau, c'était...
Alors dans un premier temps, on n'avait pas de contact avec les chômeurs. Donc c'était organisation un peu théorique, quoi. Alors c'était prévoir le parcours de la marche, prévoir l'accueil en ce qui concerne Aubervilliers, puisqu'on les accueillait le matin, l'accueil à la mairie, l'accueil également à une association de chômeurs qui s'était montée très récemment sur Aubervilliers. C'était prévoir le repas à midi sur Aubervilliers. Donc contact avec la mairie, contact avec les possibles lieux d'accueil des marcheurs. Ça a été le foyer des jeunes travailleurs à Aubervilliers. S'il a fallu prendre aussi, mais ça c'est Pantin, le collectif de Pantin qui s'en est chargé, prendre des contacts pour l'hébergement le soir, prendre des contacts aussi parce que c'était le dernier soir, on avait prévu une fête, donc lui réserver une salle pour faire un repas un peu festif le soir.
Mais j'insiste lourdement, hein, mais quand tu dis prendre des contacts, les gens qu'on a accueillis, c'était qui ?
Alors prendre des contacts sur Aubervilliers, ça veut dire contacter un adjoint au maire pour lui demander pour lui signaler que la marche va passer sur Aubervilliers et qu'on souhaite que la mairie réserve un accueil à ces personnes-là, donc soit reçu par le maire à la mairie officiellement pour qu'il y ait une reconnaissance des chômeurs, reconnaissance que nous demandions tous par rapport à cette marche. Quoi.
Et par rapport à la mairie en question, ça s'adresse aussi bien à Joël qu'à Catherine qui ont suivi donc d'autres régions. Est-ce que vous avez l'impression que justement ce que dit Eric, c'est-à-dire la reconnaissance des chômeurs au niveau de ceux qui sont à la tête des mairies, est-ce que c'est quelque chose que vous avez l'impression d'avoir gagné?
Gagné, je sais pas. En tous les cas, ils ont été accueillis. Ils ont été pas reconnus, mais connus, parce que jusqu'à maintenant, on parlait de l'exclusion, tous. On a eu un grand choc. On s'attendait à recevoir des chômeurs, donc des gens encore un peu qui vivent dans le même train de vie que nous, quoi. Mais en fait, on s'est aperçu qu'on avait des gens désocialisés, des exclus, comme on entend parler. Et on a eu une grande claque dans la figure, quoi. Parce que ça a été une demi-journée très animée sur Aubervilliers, avec des gens très fatigués, qui demandaient, qui voulaient être reconnus, qui avaient relevé un challenge, un défi en faisant cette marche, qui souhaitaient arriver jusqu'au bout, jusqu'à la grande manifestation du samedi, telle qu'ils l'espéraient. Et ils en avaient un peu marre, ils étaient un peu fatigués, et ils demandaient être reconnus. Par exemple, une anecdote, nous avions un chômeur qui avait un peu organisé avec nous la marche, qui n'avait pas été retenu à la poste, qui avait suivi un stage mais n'avait pas été retenu. Lors du repas, il a proposé que la marche passe par la poste d'Aubervilliers pour revendiquer, pour signaler le sort qu'on lui a montré, l'injustice de ce sort. Et là, on a eu une réaction assez chaude, assez emportée de quelques marcheurs qui n'acceptaient pas ce détournement de la marche. C'était un détournement pour eux parce qu'ils avaient un peu l'impression qu'on les utilisait. Donc là, un sentiment très fort de « on ne nous prend pas en compte, on ne nous écoute pas ».
Oui, tu veux intervenir ?
Oui, non, par rapport aux municipalités, j'ai très peu d'expérience. Je crois que ça a été assez inégal, l'accueil et l'investissement qu'ont pu avoir les municipalités. Moi, je me souviens, il me semble que c'était au niveau donc de Tonnerre quand je suis quand j'ai rejoint la marche sud-est. Et là, alors évidemment, il aurait été assez indécent de faire comme si ça n'existait pas. Alors, donc, il y avait toujours plus ou moins un minimum de faits par les municipalités. Mais si je me souviens bien, au niveau de Tonnerre, le maire ne s'était pas du tout déplacé. Il avait envoyé un sous-fifre pour, donner un verre de vin aux marcheurs et aux marcheuses. Mais disons que ça avait à la fois une impossibilité quand même à contourner le problème, mais quand même une relative insolence par rapport à ces marcheurs et ces marcheuses, dans la mesure où le maire n'était pas là. Donc c'est vrai que ça a dû être tracé inégal selon les mairies et les municipalités. Donc mais je trouve que par moment c'était un peu, c'était limite quoi, l'attitude des maires.
Vas-y, Joël.
Pour ce qui est de la marche ouest, effectivement, là, pareil, les accueils très divers. Bon, Caen, qui est quand même une grande ville, qui a des moyens, qui n'est pas une ville pauvre, hein, bon, porte fermée à la mairie, donc c'est les gens localement qui ont dû se débrouiller avec des associations, tout ça, pour trouver le moyen d'héberger les marcheurs. Liffré, qui est un peu un petit bled de 1500 habitants à 20 km de Rennes, bon, le maire nous attendait à l'entrée du village, il nous a accompagnés, discussion, repas avec les marcheurs, hébergement, très bon hébergement dans un centre d'accueil calmement. Là, c'est encore à noter d'ailleurs, de même que la population souvent nous accueillait mieux dans les petits bleds qu'en Hermel, les maires, les autorités nous accueillaient souvent nettement mieux dans les petites villes que dans les grandes villes. Bon, je dois dire aussi que pour moi, cette marche a été une très grande affaire parce que j'habite Paris. Finalement, moi, je passe mon temps entre chez moi et le boulot. Je suis dans le métro. Et puis c'est tout. Et là, on entend parler des exclus, etc. Nous avons rencontré des gens dans des situations hallucinantes. Bon, j'ai rencontré à Fécamp, enfin ailleurs, partout, des gens qui nous expliquaient leurs histoires, des personnes qui travaillent dans l'hôtellerie. Et puis, qui font des heures supplémentaires, qui sont jamais payées, ils ne peuvent plus continuer comme ça, ils s'en vont, ils quittent leur boulot parce que c'est intolérable, ils ont pas droit au chômage, ils se retrouvent des situations, enfin on pourra en évoquer, et de ce point de vue-là, j'ai découvert et vraiment ça m'a touché quoi.
Et oui, c'était effectivement un témoignage bouleversant, on peut le dire. Mais c'est vrai que le chômage, ça bouleverse aussi pas mal de gens qui le vivent, hein, c'est clair. Je veux dire simplement que les grésillements que vous avez entendus dans le montage font partie du montage, donc c'était fait exprès parce que en définitive la réception FM à l'époque était un peu moins bonne qu'aujourd'hui, j'imagine. Faut pas nous en vouloir, ce n'est pas nous, hein. c'était la blague de ce soir. Très bien. Alors on va reprendre cette émission, c'est Mode d'emploi sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM, émission Mode d'emploi qui fête ses 20 ans, également les marches des chômeurs qui fêtent également leurs 20 ans. Donc Christophe, toi tu voulais nous parler, puisque avant de passer ce passage de son, tu voulais nous parler un petit peu des flics qui chargeaient, de la répression policière.
Oui, non mais c'est vrai que les chômeurs ont toujours été considérés par les autorités comme effectivement les manants qui dérangent les foires du Moyen-Âge. Et c'est vrai que des fois on a eu, c'est une chose qui est regrettable, c'est qu'à très souvent, les gens qui vont manifester ont une conscience politique, ils sont pas là dans une logique de casse, mais absolument pas. Parce qu'ils savent très bien que ça va les desservir et que cette image de casseur va complètement noyer la légitimité de leurs revendications. Et c'est vrai que très souvent dans les manifs, et moi j'espère que ça sera pas le cas demain, qu'est-ce qui se passe? Sous prétexte d'un test qui refuse d'accepter plus de 3 personnes sur la voie publique, on peut embarquer tout le monde. Donc très souvent, moi j'ai vu dans des manifs où t'avais 200-300 manifestants qui voulaient quitter la manifestation, les CRS les entouraient et puis embarquaient tout le monde au contrôle.
Un peu au faciès quand même.
Un peu au faciès. Ouais. Et puis c'est pas ça, c'est que moi j'ai une petite anecdote pour faire des reportages des radios. Une fois j'étais avec sur Caen une grande résistante et puis connue, et j'ai failli me faire matraquer, et heureusement qu'elle était là parce que là ça la foutait vraiment mal, et puis c'était pour le plaisir quoi. Pour le plaisir, on refusait que je quitte la manifestation. J'ai mis une demi-heure à demander très poliment et très calmement. Le but du jeu, c'était quoi? C'était de me faire craquer pour me foutre les menottes et me tabasser au commissariat. Ouais. C'était clair, quoi. Ouais. C'était l'objectif, clair d'un mec, d'un officier CRS qui avait envie de se taper un gars qui avait un handicap. Et puis voilà, ça lui faisait plaisir. Donc c'est clair qu'on a eu souvent ce genre de réaction d'agressivité par rapport, je dirais, à un personnel qui, au nom de la République, est censé assurer la sécurité et l'ordre, et en fait, là, à contrario, ils ont le symbole même d'un désordre sur lequel ils n'ont aucune prise et qui de toute façon perdurera du fait des conditions sociales et économiques. Et donc la seule réponse qu'il y a, c'est souvent une réaction violente, quoi.
Merci.
Pas
Christophe.
De protection de la situation.
Non, mais je suis d'accord. Nous sommes d'accord avec toi sur l'ensemble de ce que tu viens de dire. Il n'y a pas de souci. Faut savoir qu'ici, nous sommes quand même, nous sommes un collectif qui s'appelle AC, Agir Ensemble Contre le Chômage. Et juste pour la petite histoire, je voudrais vous faire écouter un petit extrait de un petit peu la naissance de ce mouvement, de ce collectif d'AC dans les années 92 ou 93, 94, je ne sais plus exactement. En tout cas, j'y suis arrivé très très vite aussi, mais un petit peu après la naissance. Écoutez-moi ce morceau de reportage et ensuite on reprend la parole.
Bien, nous sommes maintenant en présence de Joël, de Christophe et de Patrick, qui appartiennent tous les trois au collectif national de AC. Et la première question que j'ai envie de leur poser, c'est l'origine d'AC. Comment cette initiative a-t-elle été décidée, en définitive, et à partir de quelles organisations, de quelles personnes?
Il faut dire donc qu'au départ, tout est venu initialement de la revue Collectif, qui est une revue qui regroupe autour du mouvement social, du mouvement syndical, un certain nombre donc d'acteurs du mouvement syndical et du mouvement social. Cette revue existe depuis maintenant plus de 5 ans et dans le cadre de ces différentes activités, un groupe s'est mis à travailler disons c'était en 92-93, donc ça remonte déjà il y a quelques temps, pour autour de la question de la réduction massive du temps de travail, essayer de lancer quelque chose pour créer un ballon d'oxygène, je crois que le mot n'est pas trop fort. Étant entendu qu'on était persuadé que la société en avait marre, ras-le-bol de la situation de l'exclusion qui était en développement constant, de l'accentuation des conditions de travail de plus en plus difficiles pour ceux qui avaient encore un emploi, et pour sortir un petit peu de cette coupure, de cette scission, enfin de ces cassures qu'on vivait tous très quotidiennement finalement dans nos milieux respectifs, dans nos réseaux, on s'est lancé dans une espèce d'aventure qui a été de se dire bon, c'est pas possible qu'on ne puisse pas créer aujourd'hui les conditions pour s'en sortir. Et puis on a rencontré d'autres acteurs du mouvement social qui avaient finalement la même envie ou le même désir que nous, et on a commencé à faire boule de neige autour du 1er mai 93. Il y a eu un grand rassemblement où on a commencé à discuter et où, je pense, pour la première fois, on a dit quel était l'état de délabrement qui existait en matière de chômage et d'exclusion, bien au-delà des chiffres officiels qui étaient donnés à chaque fois sur le chômage et l'exclusion. Et on a dit un peu notre conviction que si on le voulait, on pouvait véritablement, en s'y mettant tous et en troussant vraiment tous nos manches, aller vers l'abolition du chômage, c'est-à-dire ne pas s'arrêter à des réformettes ou à des révisions, à la marge de la situation des gens qui étaient exclus, mais véritablement reprendre tous les éléments qui nous font vivre au quotidien et réécrire tout ça un peu de façon différente. Voilà, à mon avis, comment c'est parti. Après, on peut dire assez rapidement que ce qu'on a voulu faire, finalement, c'est la solidarité. Je reprends la petite phrase qui a été dite tout à l'heure dans une des petites bandes annonces. On a cherché à fédérer au niveau d'abord des idées. On a cherché à s'élargir du côté syndical, du côté associatif, du côté de la LDH, du DAL, du côté de tous les individus qui avaient envie de se mettre en route avec nous. Et puis, on a commencé à penser, pas simplement à fédérer autour d'une charte, ce qu'on a commencé à faire, avec deux éléments essentiels, réduire massivement le temps de travail, répartir autrement les richesses, pour abolir le chômage. Et puis, on s'est dit qu'il fallait agir. Et quand on a pensé à agir, eh bien, on a tout de suite pensé que d'autres avaient agi avant nous, nous avaient montré un peu la voie. On a pensé au beurre, notamment, qui avait mis en marche, à partir d'un tout petit noyau, une masse très très forte de gens dans la France des années 80, et on a commencé à travailler l'idée, et peut-être que Christophe peut en parler.
Moi, j'aimerais bien vous poser une question pour justement préciser un peu des choses. Tu dis « on », est-ce que tu peux, par exemple, toi, Patrick, en deux mots, nous expliquer personnellement d'où vient ton adhésion, j'entends, hein. C'est pas ta carte, hein. Je ne sais pas pourquoi tu as pris ta carte, mais d'où vient justement, de par ton parcours personnel, peut-être, le fait que tu sois entré dans AC.
Mais je crois que très simplement l'idée, c'est que au bout d'un moment dans la société des années 90, t'en as marre, c'est-à-dire que t'en as marre de voir que t'as des copains qui se retrouvent au chômage, qui sont dans la merde, t'en as marre de voir que, disons, il y a un certain nombre de gens qui te sortent des discours lénifiants pour t'expliquer que, bon, on peut encore attendre, qu'on peut s'arranger, qu'on peut faire du RMI, qu'on peut réinsérer, etc., etc., et que tu penses que les solutions ne sont pas là, que les solutions sont forcément plus radicales, et que, si on le veut, on le peut. Bon, peut-être un principe qui est un peu simple. Et puis on part comme ça, quoi. On part un peu comme le site, quoi. Nous partîmes 500, on n'est même pas parti à 500, on est parti à 4-5 au départ sur une idée. Et puis l'idée, on la cultive et on est sûr que d'autres peuvent venir travailler avec nous. Donc on est parti comme ça et on a fait finalement le pari que, puisqu'on pensait que la société était délabrée complètement et que pour s'en sortir, il fallait la reconstruire, je vais dire les choses un peu simplement comme ça, il fallait peut-être penser à une forme d'organisation qui justement dépasse un petit peu les formes classiques de la division entre le politique, le social, le syndical, etc. Il fallait peut-être rassembler tout ça, l'associatif aussi. Alors, on est parti pour ça.
Et toi,
je suis parti pour ça.
Et toi, Christophe, par rapport donc au collectif AC, ta démarche, elle est née comment ?
Moi, c'est assez simple, parce que Patrick a expliqué que les choses sont parties donc de la revue collective, mais la revue, c'est une revue, donc avec des chercheurs, des intellectuels ou des militants qui y travaillent, mais c'est aussi un réseau syndical. Et ce réseau syndical regroupe des gens qui sont de ce qu'on appelle la gauche CFDT, de syndicats indépendants. Moi, par exemple, je suis permanent syndical dans un syndicat qui s'appelle Sud PTT. Bon, donc des syndicats comme Sud ou le SNUI aux impôts ou le CRC dans la santé, plus des gens qui sont dans la FSU, dans l'éducation nationale, plus des gens de la CGT ou d'autres centrales syndicales. Et ce réseau syndical sentait bien que le chômage commençait à toucher, y compris les secteurs les plus protégés du salariat. Hein. Nous, au PTT, c'est des fonctionnaires, des gens qui sont assis avec une carrière linéaire jusqu'à 60 ans. Mais maintenant, il y a près du quart des gens qui travaillent à la poste qui sont sous statut précaire, quel que soit ce statut-là. Comment lutter contre ça ? Il faut le faire dans l'entreprise, mais on cherchait à trouver un débouché national, des solutions nationales. Et on se sentait trop faible pour le faire seul en tant que syndicaliste. D'où l'intérêt de travailler avec une revue des chercheurs comme ceux de la revue collective, mais aussi et surtout le monde des chômeurs, le monde des exclus, le monde des associatifs. D'où, à partir de la revue, un travail dans ce réseau syndical et très vite l'ouverture qui s'est réalisée dès le printemps 93 aux associations de chômeurs, à la Ligue des droits de l'homme, aux antiracistes, aux féministes, à tous ceux et celles qui avaient envie de s'investir et de se mobiliser sur le sujet. Donc ça a commencé de ça, par là. On avait donc l'idée dont Patrick a rappelé un peu la genèse, et un autre point de départ était l'idée qu'il nous fallait une idée un peu folle pour lancer les choses. C'est-à-dire qu'il ne s'agissait pas simplement de se mettre d'accord sur un projet et des revendications, ce qui nous a demandé du temps, mais qu'on a fait quand même en quelques mois, sur la base d'un texte fondateur, qui est un peu le texte fondateur d'AC, mais que si on voulait que les choses prennent corps, et que ce ne soit pas simplement une déclaration ou un point de vue qui soit signé par un certain nombre de militants ou d'intellectuels, il fallait aller au-delà et trouver une idée qui nous permette de réaliser une accumulation primitive de force, d'où l'idée de la marche sur laquelle on pourrait éventuellement revenir.
Et oui, voilà, c'est donc deux annonces pour finir cette émission. Pour la justice sociale, chômeurs, salariés, manifestons contre le chômage et la précarité. Samedi 6 décembre 2014, demain, n'oubliez pas demain, à 14h, place Stalingrad, Paris, à l'appel des organisations de chômeurs AC, APES, CGT chômeurs et MNCP, donc à 14h à Stalingrad, allez-y nombreux, c'est très important. Également, en marche contre le chômage et la précarité, qui sème la misère récolte la colère, le samedi 13 décembre de 14h à 22h, 29 avenue Ledru-Rollin, dans le 12e, Paris Métro, Gare de Lyon, au quai de la Rapée, dans le code du DAL, droit au logement, pardon. À 14h, c'est le journal de la marche des chômeurs, c'est un film de 53 minutes réalisé par Mog Abdallah avec l'équipe de l'agence Immédia et plusieurs marcheurs. Et de 15h à 22h, l'intervention et débat. Il y aura aussi à boire et à manger, bien sûr. L'entrée est libre, donc vous donnez ce que vous pouvez. Si vous ne pouvez pas, vous donnez rien, il n'y a pas de souci. Voilà, cette émission se termine. Merci, messieurs, de l'avoir faite avec moi. Merci, chers auditeurs et auditrices, de l'avoir suivi. J'embrasse les filles de toute nationalité, de tout âge, puisque ici, nous sommes internationalistes. Et je vais donner un gros soin de main aux garçons. Ciao.
Bonsoir.